Premier sujet pour les commissaires ce matin, le jugement de juge Blanchard de la Cour supérieure sur la loi québécoise sur la laïcité. Et tout de suite, Nathalie, ben, le gouvernement a dit « on s'en va en appel ».
Oui, on s'en va en appel. Un jugement quand même costaud, hein, plus de près de 250 pages. Mais avant de commenter ce jugement, Paul, moi j'aimerais dire que et c'est ma conviction très profonde, je crois que cette loi n'aurait jamais dû être adoptée parce que pour moi, elle répond davantage à des intérêts politique qu'un problème social. C'est-à-dire qu'on a adopté une loi pour une menace qui n'existe pas. Et hier, lorsque j'ai entendu le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, au micro de Bernard Drainville, dire « c'est une victoire, cette décision est une victoire pour le peuple québécois », bien, j'ai trouvé ça triste et désolant. Pourquoi? Parce que un gouvernement ne peut pas se réjouir, ne peut pas crier victoire lorsque on suspend et on brime des droits fondamentaux qui sont garantis par les chartes canadiennes et québécoises. Parce que c'est précisément ce qu'a fait le gouvernement. Il a, pour adopter sa loi, suspendu les droits liés à la liberté de conscience et à la liberté de religion. Alors, c'est la deuxième fois dans l'histoire que le gouvernement du Québec fait appel à ce qu'on appelle la clause dérogatoire ou la clause dérogatoire, effectivement, ou la clause non-obstant, pour justifier la suspension de droits fondamentaux. Robert Bourassa l'avait fait en 1988 pour la loi liée à l'affichage, la préséance de l'affichage en français versus l'anglais. Mais au-delà de ça, le tribunal hier, ce qui est venu dire au gouvernement, c'est bon, oui, vous avez effectivement violé des droits fondamentaux dans la loi, mais comme vous avez eu recours à la clause dérogatoire, la loi est valide, mais il a reconnu deux exceptions, une pour les députés puis une pour les commissions scolaires anglophones, en disant que dans les deux cas, la loi ne serait pas valide, en fait, parce que les députés et la communauté anglophone est protégée par des droits. Et là, c'est là que le bas blesse. Comme on dit, le gouvernement a dit, il ne peut pas y avoir deux catégories de citoyens au Québec. Il ne peut pas y avoir deux systèmes de valeurs. Et moi, je trouve ça, toute cette histoire-là, je la trouve triste, oui, parce que si on a un gouvernement qui a contribué à diviser les Québécois, puis je regrette de le dire comme ça, puis c'est le gouvernement de François Legault, prenez tout le débat lié sur l'immigration, le gouvernement, en abaissant les seuils d'immigration, a envoyé le message que ben, les immigrants, ça peut être dérangeant, puis c'est pas si important que ça pour notre société. Alors bon, sur le plan juridique, le débat va se poursuivre, puis tout le monde croit dans le milieu que c'est un débat qui une question qui va se retrouver à la Cour suprême. Pourquoi? Parce que les opposants, eux, en ont contre le fondement de la loi, contre la loi comme telle.
Luc?
Moi, tout à l'inverse, je considère que l'État a le droit de demander la laïcité pour les gens qui exercent le pouvoir. Et il faut faire attention, il faut mettre énormément de nuances. D'abord, il faut accueillir avec beaucoup plus de chaleur, de volonté d'intégration et d'ouverture les immigrants, notamment de culture arabe. Encore plus islamique, de religion islamique. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas se penser que cette loi-là, c'est un premier pas pour refuser le voile ou le port du hijab ou du niqab, etc. Au contraire, ce que ça dit, c'est voici les moments très, très, très limités où il ne peut pas être porté, c'est l'exercice du pouvoir. Puis, le reste... le reste de la société devrait être ouverte, devrait être contente d'avoir une immigration musulmane. Je l'ai dit à plusieurs reprises lorsqu'on parlait de la langue. S'il n'y avait pas eu l'immigration arabe, maghrébine notamment, on aurait des statistiques de la langue qui nous inquiètent tous les jours, infiniment plus préoccupantes. Maintenant, ceci étant dit, le jugement, c'est une victoire pour le gouvernement. Pourquoi c'est une victoire? Parce que la partie demanderesse et les parties intervenantes ont tout fait pour dire qu'il était illégitime de la part du gouvernement du Québec de vouloir exercer ce pouvoir-là pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une prohibition, la prohibition de porter le voile et qu'il y a des conséquences. Ça devrait donc être jugé par une cour fédérale. Donc, c'est un acte criminel et ça doit être jugé par une cour fédérale. Et le juge a résisté à cette interprétation-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont allégué qu'il n'y a rien dans les lois, dans la Constitution de 1867, qui traite des pouvoirs des employés gouvernementaux. Il n'y a rien qui dit là-dedans que le gouvernement peut aller jusqu'à la gestion de la religion ou des droits. Alors, que le juge ait refusé ces deux interprétations-là, c'est une victoire pour le gouvernement et c'est là-dessus que va porter le jugement en cour d'appel.
Bien, on verra, Luc, quelle sera la décision des juges en cour d'appel. Mais je veux revenir sur le port du voile. Tu as raison, effectivement, d'insister sur l'importance ou la contribution, l'importance de la contribution des, de la communauté musulmane à l'évolution de la société québécoise. Et je trouve ça toujours très, très triste de voir que dans ce débat-là, comme il y en a d'autres au Québec, on est stigmatisé les femmes qui portent le voile. Parce que, selon moi, il y a une différence entre porter le voile et sur l'enjeu du port du voile versus l'enjeu du visage à découvert. Parce qu'un des arguments du ministre de la Justice, c'est de dire non, les députés ne peuvent pas être exempts de cette obligation de ne pas porter de signes religieux parce qu'à l'Assemblée nationale, on doit s'exprimer à visage découvert. Alors, je me suis dit, si c'était ça l'enjeu au départ, pourquoi ne pas s'être concentré uniquement là-dessus? Mais au-delà de ça, parce que la loi est adoptée, il faudra vivre avec...
Mais on ne peut pas se retrouver avec un ou une députée là, avec le visage couvert à l'Assemblée nationale.
On s'entend là-dessus, Paul.
Ça n'a aucun
sens.
Mais
par contre, on s'entend là-dessus. Mais moi, j'aurais zéro inconfort avec une députée qui arrive avec son hijab à l'Assemblée nationale, là. J'aurais aucun. Je ne sais pas si vous auriez un inconfort avec ça, mais moi, j'en aurais aucun inconfort avec ça.
Mais moi, où je comprends pas trop, là, je l'ai lu, je suis pas avocat, là, mais revenons aux anglophones, parce qu'une des conséquences, c'est de quand même montrer qu'il y a deux façons d'appliquer une loi au Québec, à partir de la communauté anglophone et certaines dispositions constitutionnelles, puis pour les autres citoyens du Québec. De dire que des commissions scolaires anglophones ont le mandat de protéger, faire l'éducation en anglais, promouvoir la langue, c'est une chose. Puis la langue, ça fait partie de la culture. Puis après ça, étirer dans le jugement, la culture, c'est démontrer l'ouverture des anglophones vers la diversité et l'acceptation des autres.
C'est le cœur de l'histoire, en fait.
Ouais, mais moi, tu trouves pas que c'est poussé fort?
J'ai lu plusieurs experts qui disent qu'il a erré. Et moi, je suis pas un juriste, fait que je peux pas dire qu'il a erré.
Moi non plus, mais j'ai trouvé que c'était étiré la définition, là.
Ce qui m'a surpris en tant que profane, c'est la lecture du jugement, c'est-à-dire les mots qu'il choisit. Quand il dit « il y a une tradition d'ouverture à la diversité dans la communauté anglophone et donc dans la commission scolaire anglophone », pardon, quoi? De quoi tu parles? Premièrement, c'est hyper, hyper, hyper généraliste comme commentaire. C'est un commentaire, c'est une impression. Deuxièmement, depuis la loi 101, c'est les commissions scolaires francophones qui intègrent les immigrants, année après année. Les pourcentages, on l'a vu dans certaines classes, de 95% de personnes qui ne sont pas des Québécois nés sur le territoire. Et donc, les commissions scolaires francophones ont fait un immense travail d'ouverture aux communautés du monde entier. Alors, de faire une déclaration comme celle-là, c'est une généralisation, d'une part, puis d'autre part, ça me semble être contre les faits.
Ben peut-être, mais toi tu parles de certains commentateurs qui ont dit que le juge avait erré, d'autres ont souligné son interprétation très large de cette dimension. Mais moi, un autre élément qui m'a fait sursauter, c'est toujours le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Il a déclaré « Le Québec ne peut pas accepter une telle intervention du tribunal envers nos décisions collectives. » En fait, un juge ne se mêle pas de politique. Un juge interprète les lois et tente de préciser, de clarifier une situation ambiguë, contestée, contestable. C'est ce qu'il fait, c'est ce que font les juges, c'est ce que va faire éventuellement la Cour d'appel et la Cour suprême. Alors le juge ne peut pas se substituer aux politiciens. Oui, le gouvernement du Québec est tout à fait légitimé de faire ce qu'il a fait. On s'entend, on peut être en accord ou en désaccord. Puis Luc, tu disais, dans le fond, on peut, c'est une affirmation de la neutralité de l'État. Moi, je pense que ce projet de loi-là a plus à voir avec l'interdiction du port des signes religieux que de la laïcité, mais ça, c'est une autre affaire. Mais clairement, c'est une décision qui va encore faire énormément jaser.
Nathalie, ouais. Sur la neutralité, sur la neutralité de l'État, il y a plusieurs groupes musulmans, plusieurs musulmanes aussi, qui ont fait de longues
études dans le
domaine,
etc. Je sais ce que tu vas me dire.
Bon, mais qui ont déclaré le contraire. Ce sont des musulmanes qui ont vécu dans des pays musulmans où le voile est exigible. Et là, elles arrivent au Québec, elles ont choisi le Québec pour cette raison-là. Elles considèrent qu'elles ne veulent pas que leurs enfants soient mises devant cette obligation-là.
Le voile est un symbole d'oppression.
Ben oui, elles ne veulent pas être mises devant cette obligation-là. Et puis attends, soyons nuancés, pour une fois.
Oui, absolument.
Soyons nuancés, regarde.
On est souvent
99,9% des... On ne peut pas juger des raisons pour lesquelles une femme porte le voile. Il y en a, c'est par volonté d'identité. Il y en a, c'est par pour la religion. Il y en a, c'est parce qu'elles ont été obligées de le faire par leur famille. Il y a mille raisons, là. Il n'y en a pas une. Hier, je suis allé chez Rona, là, puis la fille qui était à la caisse, elle avait le voile, puis elle était une comique, là, en jeans, en t-shirt. Je suis sûr qu'elle, elle porte pas le voile de la même manière que sa mère le portait, là. Il y a mille raisons. On peut pas dire que le voile, c'est quelque chose de dangereux, que ça exerce de l'influence. On peut pas dire ça. Surtout pas dans la société civile. Mais on peut penser que certaines personnes qui ne veulent pas que leurs enfants soient éduqués par quelqu'un qui porterait le voile parce qu'elles ont peur que ça donne le signal qu'il faut le porter, que ces personnes-là, on ne peut pas non plus les écarter du débat.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Luc. Puis il y a, dans la communauté musulmane, il y a un mouvement laïque, effectivement, qui plaide pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire non au port du voile, et je respecte ça. Mais moi, je suis aussi réceptive à la femme musulmane qui me dit, moi, je porte mon voile, il fait partie de mon identité, c'est pas juste une question de religion. Tu sais, j'ai du respect également pour ça. Ce que je trouve triste dans toute cette histoire-là, c'est qu'on a contribué à stigmatiser ces femmes qui ne portent pas le voile parce qu'elles sont obligées de le porter, parce qu'elles ne sentent pas le poids de l'oppression, tu comprends?
Oui, Nathalie, là-dessus, sur ce point-là, tu as raison. Oui. Et ça, parce que je pense qu'on doit faire, là, tous les Québécois, on doit donner tort à l'interprétation de M. Blanchard. On doit faire preuve d'ouverture aux personnes qui portent le voile. On doit faire preuve d'accueil, de chaleur, pas juste d'ouverture, d'accueil, de chaleur, d'avoir la main tendue vers des personnes qui portent le voile. Et de cibler le jugement seulement pour ce qu'il est, c'est-à-dire seulement dans les cas des personnes qui sont en autorité.
On va y revenir parce qu'il y a la cour d'appel, puis on va y revenir quand ça sera rendu à cause suprême. Fait qu'on va y revenir une couple de fois. Au retour, Derek Chauvin, ex-policier reconnu coupable, toutes les accusations de meurtre pour avoir causé la mort de George Floyd. La 13.